E-Radio Nantes.
Der Studio Gast.
El invitado de la redacción.
Guests of E-Radio.
L'invité de la redacción.
L'invité de la rédaction.
Michel Babin est en charge de l'association Handicap International. Pour la 8e fois, il organise la pyramide de chaussures à Nantes le 25 septembre. En quoi consiste cette pyramide ? Écoutons Michel Babin qui nous explique son engagement.
Cette pyramide, en fait, c'est un symbole. Pour la première fois, l'idée était d'une indignation pour toutes les victimes des mines antipersonnelles. Et à ce titre, il y avait souvent des estropiés, donc une jambe qu'ils avaient perdue en ayant marché sur une mine antipersonnelle. Et de ce fait, ils avaient besoin qu'une chaussure. Donc le symbole avait été de lancer l'autre chaussure en disant qu'on n'en avait plus besoin. Bien sûr, chacun sait dans nos pays que ça n'a pas beaucoup de sens de lancer qu'une chaussure, puisque nous marchons heureusement, nous, en Europe, tout au moins sur cette partie d'Europe, sans difficulté, sur nos deux jambes, contrairement à des pays tels que le Laos, dont on y reviendra sans doute. Eh bien, nous avons préféré lancer les paires de chaussures pour que ça puisse être réutilisable. Mais avant tout, c'est un geste symbolique.
Vous êtes l'organisateur depuis...
Depuis, je crois, 2002.
Et il y aura aussi un autre programme à côté de la pyramide, je pense.
Oui, alors donc la pyramide, c'est le côté symbolique, hein, pour montrer l'indignation, pour montrer le soutien du public. Et ça n'empêche pas qu'il faut que cette journée se passe dans la bonne humeur pour toutes les personnes participantes. Et de ce fait, donc, nous aurons Bleu Nuit, il y a le groupe Joseph Machin et Backdoor Man, voilà, qui vont jouer, bien entendu, gratuitement pour pouvoir... nous soutenir. À la fin de la journée, nous avons le relais Atlantique qui récupère toutes les chaussures pour eux-mêmes les trier, tout au moins pour les meilleurs, et sinon pour en faire donc de la matière première.
Vous attendez combien de participants ?
Ah, c'est très difficile parce que ce sont des participants qui passent et donc on peut pas vraiment les compter. Ce que l'on peut dire, c'est le nombre de signatures que l'on aura obtenues, puisque l'objectif de cette journée, c'est d'augmenter le nombre de pétitionnaires. C'est-à-dire à chaque fois, les gens nous soutiennent en signant cette pétition pour demander au gouvernement donc d'agir. Et chaque année, le message change en fonction donc de l'actualité et des évolutions que nous avons déjà obtenues.
Cette année, ça se passe pour la 16e fois. Et est-ce qu'il y a d'autres villes qui font la même chose ?
Oui, il y a 31 villes en Europe, mais c'est essentiellement, disons, en France où il y a le plus grand nombre.
Avez-vous un chiffre ? Combien de gens sont inclus dans l'organisation ?
Bon, nous sommes une quinzaine, on va dire, de bénévoles d'une façon régulière au relais de mobilisation. Donc nous pouvons organiser ceci, notamment grâce au soutien de la mairie qui nous donne la possibilité donc d'utiliser cette place et qui nous permet d'avoir l'électricité, ne serait-ce que pour la sonorisation. Donc qui nous donne donc des facilités, qui pose le podium. Également donc Accor qui nous permet donc d'avoir des stands de manière où que l'on puisse préserver de la pluie éventuelle toute la partie documentation. Pour dire vraiment le nombre de bénévoles qui vont appliquer, j'espère que dans la journée, il y a toujours des gens qui sont des parrains ou qui soutiennent Handicap International et qui nous rejoignent à cette occasion. Comme ils connaissent le message, ils donnent un peu de leur temps cette journée-là, de manière à multiplier les possibilités de signature de la pétition.
Est-ce qu'il y avait un événement clé qui vous a donné l'idée de vous impliquer dans l'action ?
L'événement clé, ce sont donc les reportages qu'on a eus... Dès la fin des années 90, où vraiment on ne pouvait plus ignorer que dans le monde, des milliers de victimes, je dis bien des milliers de victimes, donc en marchant sur les mines, se trouvaient estropiées, se trouvaient mutilées à jamais, encore une fois, pour l'essentiel, des victimes civiles, et que ceci pouvait s'arrêter si vraiment on prenait conscience qu'il y avait d'autres façons de s'opposer.
Vous avez dit qu'il s'agit des bombes antipersonnelles ou à sous-munitions. Mais en quoi consiste-t-il le problème de ces bombes, en fait ? Peut-être vous pourriez encore une fois résumer pour comprendre.
Oui, tout à fait. Donc le premier combat avait été mené pour s'opposer aux mines antipersonnelles. Donc ces mines antipersonnelles, ce sont donc ces armes qui sont posées au sol et qu'en marchant dessus, il suffit donc une masse de 5 à 10 kilos pour les faire exploser. Donc ce combat a été globalement gagné, puisque depuis 1997, grâce au traité d'Ottawa, les mines sont interdites. C'est-à-dire que tous les Européens, et bien sûr d'autres pays, puisqu'il y a 137 pays en tout, ont signé et ratifié ce traité d'interdiction donc des mines antipersonnelles. On peut dire que là, il y a eu un grand pas pour l'humanité, dans la mesure où ces armes-là sont bannies aujourd'hui, donc au niveau international. Ensuite, Handicap International a mené le combat sur les bombes à sous-munitions. Les bombes à sous-munitions sont à la fois comparables et différentes. Comparables en ce sens où la dangerosité est la même. Ce sont comme des mines mises à l'intérieur d'un conteneur, donc d'une mer bombe, et qui, à quelques centaines de mètres, mètres avant d'exploser au sol vont être disséminés dans un rayon de 100 à 500 mètres. Ce n'est pas comme une, comme autrefois, on va dire, pour la guerre 39-45, des grosses bombes comme des fois on retrouve. Là, au contraire, ce sont comme des petites mines qui sont posées, qui sont fixées, ça peut être plusieurs centaines jusqu'à quelques milliers, sur un conteneur qu'on appelle une mer-bombe. Et donc, c'est au moment donc de l'ouverture de ce conteneur que toutes ces mines se trouvent disséminées. D'où le mot de sous-munitions, non pas parce qu'elles sont moins dangereuses, mais parce qu'elles sont à l'intérieur d'un conteneur. Elles vont être non discriminantes, c'est-à-dire ce sont globalement toujours les populations civiles qui en sont les premières victimes. Et 5 à 40% d'entre elles ne vont pas exploser au niveau de l'impact, au niveau du sol, soit parce que le sol est un peu humide et le détonateur ne sera pas frappé, soit parce que simplement elles vont rester accrochées, parce qu'il y a des petits parachutes, pour que ça, enfin des choses vraiment d'une sordidité inouïe. Et ce qui fait qu'une fois la guerre terminée, la dangerosité de ces armes reste entière, au même titre que le sont les mines antipersonnelles. Et très souvent, là, ce sont les enfants qui, en les accrochant, en les prenant, vont faire exploser donc ces bombes à sous-munitions, notamment au niveau des membres inférieurs, et une victime sur deux en meurt aussitôt.
Et combien de bombes à ces types restent encore dans le monde? Est-ce qu'il y a...
Là, c'est en centaines de millions. Je ne vais pas pouvoir vous dire exactement le nombre. Je vous invite à aller voir sur le site d'Handicap National, où vous aurez vraiment tous ces chiffres-là, chiffres clés, combien de millions dans chacun des pays, parce que l'organisation Handicap National ainsi que 5 autres ONG donc se sont réunis de manière à pouvoir suivre l'évolution de ces armes. Parce que pour les bombes à sous-munitions, nous avons connu également une victoire en 2008, puisque c'est à nouveau un traité qui porte le nom de traité d'Oslo et qui aujourd'hui est applicable depuis le 1er août 2010. Donc ces combats ne sont pas vains, puisque grâce à ces mobilisations, grâce aux citoyens qui nous rejoignent cette année, le droit international avance dans la mesure où ces armes-là n'ont plus le droit d'être utilisé, tout au moins pour tous les pays qui se sont engagés sur ces traités internationaux.
Le récent traité d'Oslo dont vous avez parlé, il entre en vigueur le 1er août. Vous allez quand même poursuivre le projet?
Bien sûr, oui, on pourrait estimer que le combat est gagné puisque nous avons obtenu le traité. Sauf qu'il faut bien voir que derrière toutes ces armes, il y a des victimes. Et aujourd'hui encore, il y a environ une victime toutes les 90 minutes. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que dans le monde, il y a environ 500 000 personnes qui ont été mutilées du fait de ces armes-là. Et maintenant, dans le traité d'Oslo, il y a également la reconnaissance par les États qu'il faut tout faire pour pouvoir rendre les terres viables, c'est-à-dire effectuer des opérations de déminage à grande ampleur, de manière à pouvoir restituer toutes les terres agricoles pour que les gens continuent à vivre sur leur territoire. Car la plupart d'entre eux sont tellement dangereux qu'ils ne peuvent plus les cultiver. Et donc ça, ce sont des efforts financiers que nous demandons aux États. La France, par exemple, est loin d'être exemplaire. Globalement, elle donne un cinquième de ce que donne l'Allemagne. Elle donne la moitié de ce que donne la Belgique. Donc au vu de nos populations, on voit bien que le gouvernement français peut et doit donner davantage pour faciliter ces opérations de déminage et de réinsertion de toutes ces populations qui ont été victimes de mines.
Handicap International s'engage dans près de 60 pays.
Oui, environ.
Avez-vous d'autres projets qui sont connectés avec la pyramide?
Non, cette journée-là est vraiment une journée de mobilisation et l'essentiel, c'est bien d'obtenir un soutien massif de la population par l'intermédiaire de cette pétition.
Et les régions les plus polluées, ce sont lesquelles?
On peut penser aujourd'hui que c'est plutôt en Asie Sud-Est avec le Laos. Ce que je constate, c'est que le combat, c'est encore long, dans la mesure où il y a tellement de territoires qui sont aujourd'hui pollués, il y a encore tellement de victimes qui sont complètement démunies, que je crains qu'il y ait encore besoin de d'autres pyramides pour montrer que la population doit toujours soutenir ses victimes et faire en sorte que ces armes se taisent d'une façon définitive.
C'était Michel Babin, organisateur de la pyramide de chaussures à Nantes. Une pyramide qui sera construite le 25 septembre. Les Nantais sont invités à participer de 10h à 19h sur la place Sainte-Croix.
C'était l'invité de la rédaction de Radio Nantes. Retrouvez cette interview en podcast sur euradionantes.eu.